sommes ici au kilomètre 268 de notre périple, 268 à partir de la source de la Seine près de Dijon, un endroit qui s'appelle Source Seine. Et nous sommes exactement entre la place Vendôme et le jardin des Tuileries. Entre la place Vendôme et le jardin des Tuileries, il y a une rue qui s'appelle la rue de Castiglione. Et dans cette rue, il y avait un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Continental. Et je vais vous parler de l'Hôtel Continental, non pas parce que je suis un fanatique des grands hôtels, mais parce que j'aime beaucoup l'effet poétique qui naît de la juxtaposition du grand hôtel et de la destinée singulière d'une personne qui l'a habité et dont on ne se dit pas nécessairement qu'il était fait pour habiter ce genre d'endroit, et dans le cas particulier, Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. L'hôtel dont je parle, le Continental, a été construit après la Commune sur les ruines du ministère des Finances. Il y a un petit texte de Théophile Gautier qui est absolument charmant, où il explique qu'à l'époque, après la Commune et les incendies de la Commune, l'ancien ministère des Finances, rue de Rivoli, ressemblait à une sorte de galerie ruinée façon Hubert Robert. Par cette brèche énorme, écrit-il, on voyait des perspectives, des enchevêtrements et des superpositions d'arcades qui rappelaient le Colisée de Rome. Alors on construit là un hôtel absolument luxueux, magnifique, dans les années 1880-1890. Et cet hôtel m'a toujours fait penser à la phrase de Diderot dans Le Neveu de Rameau. On loue la vertu, mais on la aime, et on la fuit, mais elle gèle de froid. Et dans le monde, il faut avoir les pieds chauds. Eh bien, les constructeurs de cet hôtel se sont débrouillés pour qu'on ait les pieds chauds de manière invraisemblablement luxueuse. C'est une époque de kitsch. C'est une époque d'accumulation, c'est l'époque du Titanic avec ses baignoires magnifiques, avec son hammam, avec son salon oriental, et on sait sur quel iceberg l'entreprise a fini par se cracher. C'est l'époque aussi du palais du Fayel qui a été l'inventeur de l'ameublement et du crédit à la consommation pour tout le monde, qui avait érigé un gigantesque caravansérail voué aux acquisitions à crédit quelque part au-dessus de Barbès. On en voit encore pratiquement les ruines. Et ici, c'est pareil, un hôtel gigantesque a été conçu par Faustin Besson, qui comportait une dynamo de 8 tonnes qui faisait marcher 500 lampes à incandescence. Ça ressemblait moitié au Sénat et moitié à un hôtel borgne situé juste à côté qui s'appelle Chabanais. Ça avait un côté à la fois bordel et exposition universelle, avec une reconstitution de l'Alhambra, avec des miroirs, avec des palmiers, avec des fougères, une sorte de gigantesque musée Grévin. Et c'est là qu'à partir du 9 janvier 1919, à l'occasion des traités de la Victoire, Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie, a habité dans une petite chambre que j'ai été voir et qu'on ne peut pas vous montrer parce que l'hôtel est encore fermé, et qui est la chambre 98. Il accompagnait à l'époque Faisal, qui était le souverain hachémite au service duquel il s'était mis en essayant d'arbitrer tant bien que mal avec les intérêts de son pays, qui était l'Angleterre. Et c'est là qu'il a commencé à écrire ce livre immense qui est Les Sept Piliers de la Sagesse. C'est probablement là qu'il a écrit le poème dédicatoire à Daoud, qui est un poème absolument magnifique. Je t'aimais, c'est pourquoi, tirant de mes mains ces marées d'hommes, j'ai essayé de tracer ma volonté en étoiles dans le ciel afin de te gagner la maison aux sept piliers, afin que tes yeux brillent pour moi le jour de notre arrivée. La mort semblait notre servante sur la route. C'est un texte absolument magnifique. Pour que notre œuvre soit complète, j'ai essayé d'ériger ce monument. Il parle de son livre en souvenir de toi. Et puis, maintenant, pour que l'œuvre soit complète, je l'ai écrasée alors qu'elle n'était pas encore finie. Et maintenant, il grouille les petits êtres pour se bricoler des masures dans l'ombre et la ruine avec le don que je te destinais. Lawrence, c'est l'aventurier énigmatique parce qu'il ne veut, disait Malraux, profondément rien. Il a été floué par les accords Sykes-Picot, il a été trahi par tout le monde, mais voulait-il réellement le royaume arabe? Voulait-il autre chose qu'une aventure personnelle? Une aventure personnelle à l'intérieur de laquelle il ne s'est véritablement jamais aimé, personne n'en saura rien. C'est une époque difficile pour lui, son rêve de royaume arabe s'est effondré, il habite cette chambre 98 qui est toute petite. Il n'y a pas lieu de penser que Lawrence ait abusé du room service ou des facilités de l'hôtel, c'était un homme déjà extrêmement ascétique à l'époque. Ceux qui l'ont connu plus tard à Clouds Hill, c'était la petite maison qu'il avait achetée près de Bovington où il était simple soldat, raconte qu'il se nourrissait exclusivement d'amandes grillées en écoutant des disques sur son phonographe, attentif à la conversation des autres et extrêmement silencieux pour sa part. Il ne dormait jamais une nuit entière, il avait été très durement affecté par la guerre qui avait prélevé son tribut sur lui comme sur beaucoup de combattants. Il avait des cauchemars extrêmement fréquents, il avait beaucoup de mal à rouler en voiture. Et après avoir écrit le début des Sept Piliers de la Sagesse entre ici et le petit palais que l'émir Faisal habitait avenue du Bois, eh bien, il sortait dans Paris pour se distraire et il allait au cirque Medrano parce qu'il adorait le cirque, les jongleurs dont il avait été un d'une certaine manière et les animaux sauvages. Et puis ensuite il est rentré au Caire pour un bref moment pour s'y trouver assez malheureux et Il s'est réfugié à Oxford, à All Souls College, où on lui a donné une chambre. J'ai eu le privilège de connaître, peu de temps avant sa mort, un vieux monsieur qui avait été un des grands spécialistes de Spinoza et aussi un des grands responsables du MI5 britannique, qui s'appelait Sir Stuart Hampshire, qui racontait comment il avait partagé cette chambre avec Lawrence au moment où Lawrence revenait de traverser ses épreuves. En juillet, il quitte Oxford, il revient ici, et c'est ici qu'il finit les 7 piliers de la sagesse. Et ça sera la dernière fois que Lawrence, qui à la fois avait lutté contre la France au Proche-Orient, mais l'aimait, viendra dans notre pays. Au fond, une part de l'aventure de Lawrence s'est peut-être nouée ici, sur les bords de la Seine, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de lui au moment où nous sommes, de cette remontée de la Seine. Pourquoi ? Parce que quand il était à Oxford, il avait développé une appétence particulière pour l'étude de l'architecture médiévale et des châteaux. Les châteaux du Pays de Galles, les châteaux de Cornouailles, et puis les châteaux de Normandie, sur lesquels il avait commencé d'écrire une monographie entre les Andelys et la Roche-Guyon. Et puis c'est après cette lecture qu'il s'est intéressé, ces lectures et ces travaux, qu'il s'est intéressé au château fort de Siri, le Crac des Chevaliers, etc., dont l'architecture est la même en réalité que l'architecture de Cornouailles, est la même que l'architecture de Normandie. Et puis c'est après qu'il est resté, après avoir lu Arabia Deserta de Doughty, et qui s'est plongé dans cette aventure extraordinaire qui restera comme l'une des grandes aventures du XXe siècle. Il a eu une fin, au fond, après cette période qui ressemble à la fin de Rimbaud, faisant paraître les 7 piliers de la sagesse, s'ensevelissant volontairement, malgré quelques amitiés glorieuses, dont celle de Churchill, dans l'anonymat de la troupe, simple soldat de l'armée de l'air d'abord, puis tankiste à Bovington, une vie extrêmement rude, qui était la vie d'un soldat de deuxième classe. Il n'avait plus rien en lui du colonel Lawrence. Il avait refusé les décorations, il avait refusé d'être anobli, il a refusé les honneurs. C'était le fils naturel de Sir Thomas Chapman, un baronnet irlandais, et personne ne sait ce que le refus de ces honneurs signifiait exactement pour lui. Et puis il est mort de manière accidentelle, comme on sait, au volant de sa Broughton, parce qu'il adorait les motos, sur une petite route, en voulant éviter deux enfants qui roulaient à bicyclette. Il a été fauché par une voiture mystérieuse qu'on a mis un certain temps à retrouver, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur sa mort, et il a été enterré en mai 1935 à Wareham, dans le Pays de Galles. Et sur cette tombe à Wareham, on peut lire simplement ces inscriptions qui sont à la fois ce qu'était Lawrence et ce qu'il n'était absolument pas, puisqu'il y a à la fois écrit « Ici repose Thomas Edward Lawrence, Fellow of All Souls College, Oxford », comme si c'était le principal titre de gloire qu'il s'était acquis à nos yeux, et en dessous une citation de l'écriture « Un jour viendra où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ». Et ceux qui l'ont entendu vivront pour l'éternité, une éternité à laquelle Lawrence ne croyait aucunement, ni dans l'histoire, ni dans la foi, ni dans la littérature.